Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission On lâche du lest présentée par The Telly, la web TV participative du 108 en coproduction avec Radio Campus Orléans, le site de la Rédac Pop, donc le site participatif et citoyen de Radio Campus Orléans qui vous propose une émission aujourd'hui sur les centres de rétention administrative, la prison des invisibles. Au cours de cette émission, donc animée par Steven Mirdin, vous aurez l'occasion donc d'entendre l'interview du collectif Colère qui s'est mobilisé aujourd'hui même samedi 25 mars à Orléans pour protester contre la construction de ce centre de rétention actuellement en cours à Olivet entre la fac de Staps et la bibliothèque départementale du Loiret. Vous pouvez évidemment suivre ce live donc sur le site de Zotelli, la web TV participative du 108. Je vous invite très vivement à aller lire l'article qui a été réalisé par Steven Mirdin concernant le centre de rétention administrative, un article très détaillé qui nous explique justement cette politique d'enfermement des populations, donc une atteinte aux droits humains, c'est ce dont il va être question dans cette émission. Un article très détaillé avec notamment des photos et des recommandations littéraires. Vous en aurez d'autres au cours de cette émission. Mais on va donc bouleverser le cours habituel de cette émission. Normalement, vous savez, on la termine par une page culturelle et nous allons l'ouvrir par une page culturelle, notamment une page consacrée à l'expression artistique et musicale d'un mouvement qui est toujours très actif, très vif et qui n'a pas perdu une ride. Je parle bien évidemment du hip-hop, aujourd'hui incarné par Lelex Luthor. Bonjour Lelex.
Bonjour à toi.
Tu vas bien ?
Ça va.
Le hip-hop est toujours présent.
Toujours.
Plus que jamais.
Tant qu'il y a de la revendication, je pense que même si ça a perdu ses lettres de noblesse, ça sera toujours présent. Ouais. Donc on va sortir, je travaille avec Astronaute, quelqu'un qui fait des instrus et qui est orléanais aussi. Et donc ça se profile pour la fin de l'année, ça s'appellera Novlangue. Donc c'est, comme le titre l'indique, orienté beaucoup sur ce qu'on peut vivre aujourd'hui et ce qu'on vit depuis pas mal de temps. Donc le côté orwellien de la chose, où on essaie un peu d'avoir une masse, de mettre les gens dans des tiroirs, à l'aide de nouveaux mots et de perturber un peu tout ça. Donc voilà, j'essaie d'en parler quoi.
Et oui, voilà, le hip-hop toujours aussi conscient en 2023. Lelexluthor pour la page Instagram, pour les fans et pour soutenir ce projet qui verra le jour, qui sera donc l'accouchement est prévu pour la fin de l'année. C'est bien ça ?
Si tout se passe bien, oui.
Allez, c'est à toi.
Merci bien.
Alors, ce comité de 9 langues.
Le secret, passer du traduire aux pensées directes et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline.
Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite.
Quelle belle chose que la destruction des mots.
Yeah. C'est... Ok. Paraît-il que certains attendent mon heure, mais comme un connard, j'arrive en retard. Dealer de cesse, pas de cesse, la concu me trouve à rien vantard. L'ego trip d'un inconnu, au style de Campan Bernard. Comprends-tu, t'as le bourdon, c'est légitime, je fais du grand. Ça bluffe, les trois quarts sont morts dans l'œuf, veulent faire la bagarre. Au style tricard par les keufs au loin, dans les pleins phares. T'inquiète pas, ça va passer, suffit de serrer ses lacets, de lever la tête, d'éviter les bracelets, de ne pas menacer. Y'a pas mon nom sur la liste, ils savent pas le prononcer. Un défilé d'ombre sur la piste, des zombies qui ne pensent qu'à danser, l'entrée des artistes est bon, des plaines de chansons pour les blondes ou brunes, braver les condés comme seul et unique combat, dénoncer la matrice, laisse tomber, tout ça, ça paye pas, ça veut cracher dans la soupe, de la soule ou Solten Pepa, trop foncé pour les people, pas assez pâle d'après l'état, je parle pas pour les nôtres, je fais des fausses notes, etc. Droit sur mes guibolles, du haut de la falaise des Tretas, tu viens de Détroit, toi, accélère, la street est trop étroite, je répète, j'ai dit la street est reine dans les pensées d'un petit prince, tu dois rincer des ennemis sans principe qui te sert la pince, qui participe à ta défaite, se manifeste quand c'est la fin. Célèbre Méphistophélès pour côtoyer le gratin. Coup de couteau dans le dos, Monica Céleste sur le bord du terrain. Sortie de route en Mercedes, elle est belle, le nez dans le pétrin. Je leur laisse le bénéfice du doute et tout ce qui va avec. Chacun son carrosse, ils sont en bolide. Je roule en estafette, difficile de bâtir un édifice avec des bouts de ficelle. Un héritage à sec pour les fils de péripates. T'as le barillet qui bégaye, le flow qui rame, vas-y pagaie. T'es ouvert à la vue du score comme monnaie.
paquet. Tu fais le guet ou tu fermes les yeux pour un paquet de monnaie. Joue pas l'étonné, faut raquer la sécu pour sentir épaulé. Ils sont aux antipodes de ce que je balance à l'antipop. Je collectionne les handicaps, mais je leur dis pas que j'ai trouvé l'antidote. Entre euphémisme et litote, philosophe comme Aristote, je les vois qui statent, la liste est longue, faut un filon qu'on les pistonne. À la pistole pit, personne d'identique, c'est dit dans le titre. Tu peux spoiler, j'attendrai pas l'épisode 10. Du respect pour les rondas, si leur fiston ne déconne pas, que leur fille soit pudique, les préserver d'une honte qui ne tue pas. S'adresser à des villes si, dont on a reconnu le style, ils se disaient qu'un go fast était possible en civic Honda. Si on se fie au quota, y'a des chances d'entendre des potins. On se file des coups de main entre poteaux, même en étant hautain. Se frayer un chemin entre proxo et bicraveur de ces toxo génocidaires type Léopold en RDC. C'est l'automne dans la Tessie, les âmes tombent sans heure de décès. Un récit plus décisif et pas un gus pour transformer. Tu veux taper des bits, vas-y, je te laisse la MPC. Si ton solde est débiteur, ça va être dur à encaisser. Y'a entendre et écouter, y'a du bruit et de la parole. Tu veux savoir papa où t'es? Bah tu parles à ta daronne, ok. C'est parti. Novlangue, fin d'année. Yeah. Que j'évite à tout prix de devenir. Ils ont tout pris sauf mon ADN et je sais de qui tenir. C'est celui qui a raison, c'est le premier qui tire. Ces salopards voudraient ma peau avant de se repentir. Ils peinent à la dépecer, je vois pas à quoi ça rime. L'excentricité les amènera à rapper en ballerine. Un accent de cité comme identité. Sans hésiter, y'a d'autres choses qu'on est censé susciter. L'illusion n'existe que dans l'œil de celui qui la voit. Donc je vais pas te féliciter si tu veux sauter du toit. Entre faux drapeaux et vrais attentats, attends-toi à ce que le commun des mortels te tutoie. Dis-le à l'élu de la nation, montre-le du doigt, ne serait-ce qu'une fois, car une voix dans une urne ne s'entend pas. Debout, tais-toi, si t'es pas de chez moi, joue pas le Robin des Bois, plus grand-chose ne met l'humain en émoi. Trop d'aluminium, il parle d'Illuminati, ce millénium souffre d'une hallucination collective. La réussite commence par un loupé, fiasco loupé, pas d'amoiseau pour fêter Guadeloupe. Le colon est un poison quand il a du toupé, saluté, je fais comme les béquets du travail salopé. La descendance dans la poussette, faut que j'arrête de tousser. Je voudrais bien te faire confiance, mais faut pas pousser, c'est... Vous entendez bien? Ok, c'est... I'm sorry boy, you were not on the storyboard. So I bought you a dirty doll. I hope she can give you some dollars. If you need anything, then ask my suppliers. I'm sorry boy, you were not on the storyboard. So I bought you a dirty doll. I hope she can give you some dollars. If you need anything. Ça parle de game, de comptine pour enfants, d'idolâtrie adolescente selon les codes et les tendances. Passage rapide aux latrines, voilà leur insolence. Une comptine pour vérité et un mytho en cas d'urgence. Certitude non vérifiée, jurée sur sa descendance. Un code barre pour identité, quand faut montrer patte blanche, excusez-le. Il a pu sa tête depuis le spring break de Budapest. La peste lui propose un drink, dès lors il se rappelle plus du... Aujourd'hui il a arrêté le rap, je crois qu'il fait du burlesque. Bref, chez App, il est tellement ancien qu'il se rappelle plus du... 24 filles dans le clip, aucune mérite la bague au watt. Des figurants plein de nigawatt, lourds comme des kilowatts. C'est fake it till you make it, c'est ce qu'il disait. Attention, big pocket, c'est la visa qu'ils visaient. Après avoir teasé leur piquette, millésimé, pactisé devient un jeu d'enfant traumatisé. Fake it till you make it. Novlangue, c'est ce qu'ils disaient. Yeah. Ok, c'est. I'm sorry boy, you were not on the storyboard. So I bought you a dirty doll. I hope she can give you some dollars. If you need anything, then ask my suppliers. I'm sorry boy, you were not on the storyboard. So I bought you a dirty doll. I hope she can give you some dollars. If you need anything, then ask my suppliers. C'est bon pour la troisième. Hey. C'est la dove. Hein? Tiens. Yeah. Une fois asphyxié, à qui se fier, en boîte d'une story atrophiée. On s'y fait grâce à Pavlov, je suis plus horrifié. candidat à la connerie, histoire d'être glorifié. Bandit rempli d'aide, dealer d'hypète et de café torréfié. D'or et de fake, en effet, c'est un fait. Rappeur en vogue, une garde-robe faite de strass et paillettes pour s'habiller en fait. Créons l'envie à ce qu'il se serait dit. Une poignée d'érudits, quelle heure est-il? Audemars Piguet aux poignées de l'ennemi. Amateur d'hommes à terre, soucieux de souhaiter la fête des mères. Racoleur d'intox visant la fanbase pour la ligne de mire. Une demi-heure plus tard, présenter ses excuses d'une posture victimaire. Et vu l'en victimé, t'es pas très téméraire. Ils veulent tout cramer, pète champagne et napalm, t'emballe pas. Y'a pas de fumée sans flamme sous le pont de l'Alma. Va falloir être solide pour la jouer SOL. Ou pour quelques dolos, y'a plus de larmes une fois qu'on a la tête sous l'eau. Ça parle à blanc, de plein de plans, pour une fin triste comme un jour sans pain. C'est rageant, c'est horrible, mais ça tue le temps. Si la fin justifie les moyens, y'a pas de limitation. L'original essuie les plâtres, on préfère à l'imitation. C'est
hey, you know what it is when you walk out the door. Hey, you know what it is when you walk out the door. Hey, you know what it is when you walk out the door.
Tu sais ce qui se passe quand tu passes le pas de la porte. C'est
hey, you know what it is when you walk out the door. Hey, you know what it is when you walk out the door. Hey, you know what it is when you walk out the door. You know what it is when you walk out the door.
Toujours les mêmes gimmicks, ça sert à rien, ça ramène pas d'argent. Désolé si je te calcule pas dans mon champ de vision. Je me bute à touquer, Cordula veut me relooker. Je suis un cas isolé, loin de leur délire de camisolé. Je fous le nez dehors, besoin d'une bouffée de Lubrizol, un peu con sur les bords. Sans être méprisant, je ris de vos idoles. Va leur dire que je me suis du père, non loin de Calcutta. Que sous l'effet des psychotropes, je sais plus où j'ai foutu le butin.
Eh hey, petit gars, ça veut chasser du reptilien, plein de pléonasmes dans leur monde politique. Demande aux petits nains.
Monter en haut, ça pléonase. Narcissique qui veulent être aux petits soins. Locas, si tu passes dans le coin, écoute le bruit du quotidien. Pour constater la descente, y'a pas besoin d'opticien. S'agirait de maîtriser, apparemment la puissance sert à rien. La réputation est en jeu, on fait dans l'indécence. Obéissance, raviver la flamme au baril d'essence. Petit Numbo veut devenir John Rambo. Au volant d'un Lambo, trafiquant de narco d'emblot. Ou rat de pie dans le scénario. Vie idyllique à la pididi. Puis dis-lui que J-Lo sera sa Billie Jean. Faut du plomb dans la tête comme Kennedy. C'est
hey, you know what it is when you walk out the door. Hey, you know what it is when you walk out the door. Hey, you know what it is when you walk out the door.
Tu sais ce qui se passe quand tu you passes le pas de la porte. C'est
hey, you know what it is when you walk out the door. Hey, you know what it is when you walk out the door. Hey, you know what it is when you walk out the door. You know what it yeah. is when you walk out the door.
Michelangelo a perdu son génie dans un verre de gin, rien d'inédit, chacun son spleen, c'est ce qu'on avait prédit. BO d'une vie cinématographique, remballe si les matons rappliquent, reconnaissable sans l'image de ma clique. Saviez-vous que selon l'hypothèse, la vérité reste introuvable comme Xavier Dupont de Ligonnès. C'est la novlangue, symphonie lancinante, prodige comme Wolfgang, béton dans le rap au début des années 90. Et la dernière? Ok. C'est apparemment je ferai du boucan. Apparemment je ferai du. Ok. Love, langue, c'est. Apparemment je ferai du boucan. Le bec long comme les toucans. D'après des hooligans de tous bords et de tous camps. Ça fera des contents et des mécontrants. On fera les comptes plus tard à la Madoff s'il nous reste du temps. Détends-toi, t'as rien de pressé sur la tempe. L'otage a pété l'hôtesse, le minibar et la réserve d'essence.
Trop tard.
N'imposez aucune résistance. Cela reviendrait à faire une croix sur votre existence. Poison du peuple comme les opiacés. D'après eux, la chance sourit aux audacieux et aux hommes pressés. Cours après le précieux. Même si pour ça, faut faire des méfaits tant que t'as la dalle. Le repas sera délicieux. Selon toute vraisemblance, il semblerait que les refrains s'ambiance veulent une billage et finissent dans les bras d'un trans. De Jack, ils ont pas vu la différence. Enfin, je pense que si tu recules et qu'il avance, c'est une évidence.
Cher payé pour une vie sur pellicule. L'attitude est dans les clips, le décrissement sera en cellule. Au volant d'un joli véhicule, un crissement fera passer la pilule aux yeux des jolis.
C'est l'histoire de cet ivrogne qui veut son vignoble, ignoble, ignare, guignol, avare, qui fait pas tourner le pinard, qui veut disperser ses cendres dans la rue de Bourgogne, qui veut qu'on le cogne pour lui remettre les idées en ordre. L'histoire d'une reine qui aime sa affaire.
joli garçon.
Sans château ni carrosse que les queutards suivent à la trace. Garci au bec qui regarde s'il faut pas faire Bélec. Si c'est le cas, il sortira le magnum à la Tom Selleck. Vas-y, pull up, Selecta. On va pas taxer s'il y a que ça que ça. Je suis un peu sectaire, mais c'est acceptable. Respectable, mais pas loin d'être ridicule. J'ai le phrasé que c'est crap pendant que les MC font des pédicures.
Cher payé pour une vie sur pellicule. L'attitude est dans l'équipe, le dégrisement sera en cellule. Au volant d'un joli véhicule, un crissement fera passer la pilule aux yeux des jolis culs. Cher payé pour une vie sur pellicule, l'attitude est dans l'équipe, le dégrisement sera en cellule. Au volant d'un joli véhicule, un crissement fera passer la pilule aux yeux des jolis culs.
Ok, c'était Luthor. Merci à Zotelli. Et maintenant, c'est place à l'émission. C'est tout pour moi. Ok. Merci bien.
L'Elex Luthor, L-E-L-E-X-L-U-T-H-O-R, un projet à suivre, une arrivée d'album donc prévue d'ici la fin de l'année, l'album Novlang, voilà. Quatre titres qui nous ont été présentés par cet artiste qui incarne le hip-hop. Alors les hip-hoppers ont bercé mon enfance, ma jeunesse et baissent encore les oreilles de nos auditeurs, auditrans, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrans, téléspectatrices qui nous regardent pour cette émission On lâche du lest. Donc oui, voilà, je le disais, les hip-hoppers qui sont des journalistes du quotidien et qui nous permettent de voir une réalité à laquelle on n'a pas toujours accès dans les grands médias. Et c'est le cas aujourd'hui dans cette émission On lâche du lest présentée par The Telly, la web TV participative du 108, en coproduction avec la Rédac Pop, le média participatif et citoyen de Radio Campus Orléans, sur lequel vous pourrez retrouver un article qui porte le même nom, les centres de rétention administrative, la prison des invisibles, réalisé par Steven Miredin, qui va dans quelques instants donc animer cette émission avec des invités du collectif Colère. Voilà, pour parler de ce centre de rétention administrative en cours de construction à Orléans, plus précisément sur le site d'Olivet, entre la fac de Staps et la médiathèque départementale du Loiret. Bonne émission à toi Steven, c'est parti.
Merci Daniel. Alors, on va commencer avec une première partie où on va expliquer ce qu'est un centre de rétention administrative. Mais avant, quelques éléments de contexte pour cette journée qui est un peu particulière. Ce 25 mars 2023, le collectif s'est mobilisé dans les rues d'Orléans et plus précisément Place de la République avec un rassemblement contre le projet de loi Asile et Immigration, pour la fermeture des centres et locaux de rétention et pour une politique d'accueil. Cette manifestation a été organisée par le collectif Colère, qui regroupe de nombreuses organisations associatives, syndicales et politiques d'Orléans, du Loiret et de la région. Au cours de cette émission, nous allons donc parler de ces droits humains bafoués lorsqu'ils concernent des individus considérés comme une population de seconde zone, précarisée, livrée à l'arbitraire de l'administration et du pouvoir, les personnes dites étrangères. À cette occasion, nous accueillons donc trois membres du collectif Colère, du collectif contre les exclusions et la rétention. Nous avons donc avec nous Benjamin, membre de l'Union communiste libertaire, Solange, membre de la CIMAD, et Oscar, membre de Solidaires étudiants. Donc bonjour à vous et merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation.
Bonjour, merci à vous aussi.
Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous expliquer, mais avant cela, pouvez-vous nous expliquer plus précisément les raisons d'être de cette mobilisation d'aujourd'hui et les revendications ?
Donc, la journée du 25 mars a été à l'appel de l'UCIJ, c'est-à-dire Unis contre une immigration jetable. Ce collectif a appelé à des mobilisations partout en France contre la loi Asile-Immigration, dont l'examen a commencé au Sénat ces derniers jours. Voilà, et qui, en résumé, est une loi pleine de dispositions qui vont encore renforcer la précarisation, les expulsions et même le bannissement des personnes étrangères du territoire.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez présenter un peu le collectif, les raisons d'être de ce collectif et puis ses revendications ?
Donc le collectif Colère s'est constitué en 2019 à l'annonce de la construction d'un centre de rétention sur la commune d'Olivet et à l'annonce également de trois autres projets sur le territoire qui étaient Lyon, Bordeaux et le Mesnil-Amelot. L'affaire a commencé, enfin la mobilisation a commencé avec la publication d'une tribune signée d'un certain nombre d'intellectuels orléanais qui s'est paru dans Mediapart et à la suite de quoi les organisations se sont rencontrées et ont décidé de constituer ce collectif dont l'objectif est d'obtenir l'abandon de ce projet de centre de rétention d'une part, mais pas seulement parce qu'il est à Olivet. Le slogan qu'on a choisi dès le premier jour était non au centre de rétention, ni ici, ni ailleurs. C'est-à-dire que le collectif réclame la fermeture et la disparition des centres et des locaux de rétention.
Merci pour ces éléments de précision. Donc on va aborder la question des centres de rétention administrative, hein, dit CRA. Cœur de l'émission d'aujourd'hui, d'autant que le projet de réforme subit actuellement des transformations. On pourra peut-être en parler, mais à notre sens, il est un peu trop tôt pour en parler. Pouvez-vous nous expliquer précisément ce qu'est un centre de rétention administrative, un peu l'historique des centres en France, quelles sont leurs raisons d'être ?
Oui, du coup, les centres de rétention administrative... À la base, en fait, c'est une pratique policière qui avait été constatée par des journalistes, je crois, à Marseille, qui avait été révélée qu'en fait, la police enfermait des gens dans des hangars avant de les expulser. Et donc, c'était fait totalement en dehors du droit français. Donc ensuite, l'État français, au lieu de dire de ne pas faire ça, ils ont décidé de légaliser ça et du coup de créer des centres spéciaux pour pouvoir enfermer les gens avant de les expulser. Et donc seulement par une décision administrative, sans passer devant un juge, les personnes qui n'ont pas les bons papiers, qui n'ont pas le titre de séjour adapté, sont enfermées. Donc avant c'était pendant 30 jours et maintenant c'est pendant jusqu'à 90 jours avant d'être éventuellement expulsées dans leur pays d'origine. Et s'ils ne le sont pas, ils sont relâchés. Et ensuite, ils peuvent être re-attrapés et re-enfermés jusqu'à 90 jours, autant de fois que la police le désire.
D'accord. Vous dites que ce sont des personnes qui n'ont pas les bons titres de séjour. Qui sont ces personnes exactement ? Enfin, pourquoi en fait on considère qu'elles n'ont pas un bon titre de séjour ?
Je crois que, avant même de répondre à cette question-là, je me demande s'il ne serait pas bon de rappeler tout d'abord qu'on est dans un contexte politique où, contre toute raison et en dehors de tout constat de la réalité, les gouvernements successifs prétendent de vouloir contrôler l'immigration. Or, l'immigration, à l'époque où nous sommes, c'est un phénomène tout simplement mondial. Je crois que l'ONU a récemment dit que 62% de la population à l'échelle de l'humanité était une population qui avait migré. Et donc, en fait, le côté un petit peu fou de cette histoire, c'est que les gouvernements prétendent contrôler ceci et à la suite de cela décide de renforcer les frontières de façon folle, de boucler l'Europe, d'en faire une forteresse pour empêcher les gens d'entrer. Donc le contexte c'est celui-là. Donc on a le contexte du refus d'une réalité d'une part et d'autre part le fait de renforcer les frontières et de rendre les conditions d'accès au titre de séjour de plus en plus difficiles, c'est cela qui crée finalement une situation où les personnes se retrouvent privées de titre de séjour. Soit parce qu'elles n'en ont jamais eu, soit parce qu'on leur a retiré, soit parce que les réglementations ayant changé, elles ne remplissent plus les conditions pour en avoir, et donc se retrouvent de ce fait sans papier. Donc on pourrait, si on voulait vraiment résumer la question... On pourrait dire que, d'une certaine façon, ce sont les gouvernements successifs qui fabriquent les sans-papiers. le deuxième volet de la politique étant les expulsions, à partir du moment où les gens sont considérés comme n'ayant pas de, le droit à séjourner, faute de titre de séjour, eh bien, on les expulse et on cherche à les expulser massivement. Voilà.
Et donc, on les fait passer par les centres de rétention avant de les expulser, c'est ça ?
C'est ça, c'est l'antichambre de l'expulsion.
Et oui, vous l'avez dit, donc on a 90 jours de rétention, on peut aller jusqu'à 90 jours de rétention, et comme vous venez de le dire, il arrive que ces personnes soient relâchées. Qu'est-ce qui se passe après pour ces personnes ? Parce qu'au final, leur situation administrative, elle n'a pas forcément changé à l'issue de ces 90 jours.
Ça soulève une autre question, mais si mes camarades veulent intervenir, c'est...
À la CIMAD, vous connaissez mieux les détails administratifs.
Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Est-ce que tu peux répéter la question ?
Ma question, c'était de savoir qu'est-ce qui se passe au terme de ce séjour en fait, en rétention lorsque les personnes ne sont pas expulsées ?
D'accord. Donc, ça pose une autre question qui est peut-être le caractère abusif de l'enfermement. On constate en effet, si on regarde les chiffres, ne serait-ce que ceux de 2021, on constate que sur la totalité des personnes qui ont été arrêtées, qui se sont vues notifier une obligation de quitter le territoire et qui, pour l'exécution de celle-ci, sont enfermées dans les CRA en attendant de remonter dans l'avion, on s'aperçoit que 51% des personnes sont finalement finissent par... sortir du CRA. Et ils sortent dans deux conditions. La première, c'est à 40%, c'est-à-dire une proportion énorme, ce sont les juges des libertés et les juges judiciaires qui les remettent en liberté. Cela signifie quoi ? Cela signifie que les conditions dans lesquelles ils ont été interpellés ou les conditions dans lesquelles on leur a notifié une OQTF étaient contestables, ont été contestées. Et du coup, les personnes sont remises en liberté par les juges. Donc ça soulève un point important qui est celui du caractère abusif de l'enfermement. Dans une beaucoup plus faible proportion, je crois que c'est de l'ordre de 7 à 8%, ce sont les préfets eux-mêmes qui mettent fin à la rétention alors que c'est eux-mêmes qui ont placé les gens, etc. Ça, sur le caractère abusif, si vous m'arrêtez si je parle trop, sur le caractère abusif, il y a aussi le fait que ce que prévoit la loi en matière d'enfermement dans les centres de rétention, c'est que les personnes ne doivent y être enfermées que pour le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ. Or, en réalité, on constate que si les personnes ne sont pas effectivement expulsées dans les premiers jours qui suivent leur enfermement dans les centres de rétention, ils ne le sont pas. Et pourquoi ne le sont-ils pas ? Ça peut être, par exemple, parce que les autorités consulaires de leur pays ne les reconnaissent pas comme ressortissants de leur pays ou alors ne leur délivrent pas de laissez-passer. Et que fait-on puisque la durée possible d'enfermement est limitée ? Eh bien, on les remet dehors. Et comme le disait Benjamin il y a un instant, la durée maximum est actuellement de 3 mois, mais les personnes peuvent être relâchées, de nouveau contrôlées. La police constate de nouveau qu'ils n'ont pas de papier, donc de nouveau le préfet leur donne une obligation de quitter le territoire et de nouveau on les replace en centre de rétention. Donc au bout du compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas possible de vivre dans ces conditions. On a une épée de Damoclès sur la tête. Et les personnes dont on parle sont des gens qui peuvent être là depuis des années en France, qui ont une vie, qui ont des familles, qui ont leur vie ici, en somme. Et ce n'est pas qu'ils étaient dans la rue, c'est qu'on les sort de chez eux pour les mettre dans une prison.
Et du coup, ça me permet d'enchaîner avec la deuxième partie, justement, qui, justement, ce système-là, il est clairement attentatoire aux droits humains. Et donc, c'est l'objet justement de la deuxième partie de cette émission. Pour préparer l'émission, je me suis beaucoup appuyé sur un écrit de Nicolas Fischer, qui est chargé de recherche au CNRS. Il s'est notamment intéressé au contrôle et aux politiques d'immigration, ainsi qu'à l'internement administratif et l'enfermement extrajudiciaire. Il est auteur du livre Le territoire de l'expulsion et il a eu l'occasion d'intervenir à l'Université d'Orléans au sujet justement des rétentions. Il a pu notamment parler du glissement de réflexion sur les centres de rétention. Donc là, au-delà de la problématique d'existence des centres de rétention, le débat sociétal s'est petit à petit tourné vers les conditions de rétention plutôt que sur l'existence même des centres de rétention. Pour vous, selon le collectif, quelle est la bonne logique à adopter ? Est-ce que c'est se positionner contre les centres de rétention eux-mêmes ou c'est se militer pour faciliter en fait et rendre plus agréable entre guillemets l'enfermement des personnes.
Oui, alors ça c'est une question qui fait débat au sein du collectif et plus généralement au sein des associations qui luttent contre les centres de rétention administrative. Donc du coup la CIMAD par exemple est une association qui vient en aide aux personnes enfermées dans les centres de rétention. Et donc parfois, oui, il peut y avoir un peu un aspect où on se dit finalement qu'ils accompagnent en fait la politique de l'État. Mais en fait, c'est aussi quelque chose qui peut être nécessaire pour éviter davantage de violence envers les personnes enfermées. C'est une bonne chose pour eux qu'ils aient des personnes qui veillent sur leurs droits au sein de ces établissements. Mais en même temps, c'est vrai qu'on se dit, bah, du coup, ça donne une légitimité à l'État pour dire bah, si, regardez, en fait, il y a des associations qui surveillent, que ça se passe bien, etc. Et en fait, nous, on est vraiment opposés aux centres de rétention. Donc, on aimerait bien sûr leur abolition immédiate. Mais c'est vrai que dans l'entre-deux, ces associations sont parfois nécessaires pour accompagner les personnes.
Et pour témoigner.
Témoigner oui, des violences qui peuvent avoir lieu.
Donc, oui, donc si je comprends bien, c'est le collectif Colère est contre les centres de rétention pour leur fermeture. Mais en même temps, on comprend que le fait qu'il y ait des associations qui agissent dans ces centres de rétention, c'est pour éviter le moins pire. Et le moins pire, justement, c'est l'actualité. Hein. On a eu le centre de rétention de Medline Amelot où la CIMAD a exercé le 2 février 2023 son droit de retrait. La défenseure des droits s'est d'ailleurs saisie d'office concernant cette problématique. En lisant l'article qui est paru dans le journal Le Monde sur une tribune qui avait été offerte à la CIMAD, j'ai noté plusieurs éléments. On avait une multiplication des éloignements du territoire alors qu'une demande ou un recours était pendant, une absence de prise en compte de l'état de santé ou de vulnérabilité des personnes placées en rétention, une absence de prise en charge adaptée des troubles psychiatriques, le recours à l'isolement, la multiplication des violences, ce qui s'est passé dans ce centre de rétention à Medline Amelot, est-ce que c'est une parfaite illustration de ce qui se passe dans tous les centres de rétention ou est-ce qu'on est sur un cas un peu isolé ?
Peut-être Solange pourra répondre comme elle est de la CIMAD.
Je pense qu'on peut considérer que ce qui se passe au Medline Amelot, qui est, je pense, le plus gros ensemble de rétention, puisqu'il y a trois centres, en fait, et bientôt quatre, qui s'y trouvent. Donc, c'est une concentration, une comment dirais-je, une exacerbation de tous les défauts de ce type d'institution. Et donc, je pense que c'est les conditions qui existent, le manque, comme tu le signalais, de vigilance de l'administration qui place en rétention des personnes qui ne devraient pas s'y trouver, par exemple les malades ou les personnes en situation de faiblesse particulière. C'est vraiment le système qui conduit à ça. Donc je pense que le Medline Amelot fait un effet loupe sur ce qui s'y passe, mais que les autres centres ne sont pas exempts de violence et exempts de situations difficiles.
Autre question, toujours dans cette optique de faire un visuel sur les atteintes aux droits humains, il y a la question des enfants, des mineurs. Il faut savoir pour rappel que la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment pour concernant l'âge des enfants, pour la durée de l'enfermement, pour les conditions de rétention des mineurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui se joue dans tous les centres de rétention administratifs où on est sur des cas un peu isolés.
Donc le premier point à noter, c'est que la Cour européenne condamne une disposition qui se trouve à l'intérieur des lois françaises. C'est-à-dire que le CESEDA qui institue les articles du CESEDA qui instituent les centres de rétention prévoit par exemple, dans l'un de ces articles, l'existence de secteurs d'accueil de familles avec enfants dans les centres de rétention. Donc c'est la loi elle-même, déjà, qui n'est pas conforme au droit européen. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que dans le projet de loi asile-immigration dont on contestait aujourd'hui le contenu, le gouvernement a adopté une mesure qu'il présentait comme très humaine et qui était un peu sa mise en conformité avec les dispositions, avec les décisions de la Cour européenne, et a annoncé ainsi que serait désormais interdit l'enfermement des enfants. Mais plusieurs choses, c'est pas les enfants, mais seulement ceux qui auraient moins de 16 ans. Donc ceux entre 16 et 18 ans, on les enfermerait quand même. Et la deuxième chose, c'est que le texte de loi tel qu'il était actuellement ne visait que les centres de rétention, c'est-à-dire qu'il ne disait rien des autres lieux où l'on enferme des personnes, y compris des familles avec enfants, c'est-à-dire les zones d'attente et les locaux de rétention. Ce qui veut dire donc qu'il reste une grande possibilité pour enfermer les enfants. Et dernier point, c'est à Mayotte que l'enfermement des enfants est le plus important et qui est 40 fois plus important que ce qui se passe dans l'Hexagone. Or, ce que prévoit les dispositions de la loi en cours de fabrication, c'est peut-être bien que ces dispositions-là ne s'appliquent pas à Mayotte. Donc, en fait, le fait d'annoncer que la rétention des enfants se serait terminée, eh bien, c'est une vaste blague, quoi. C'est une entourloupe, c'est ce qu'on veut, mais ce n'est pas honnête.
Pour rappel, le CESEDA, c'est le code qui s'applique aux étrangers. Et donc, vous pensez que l'enfermement, malgré cette réforme, malgré ce que se promet cette réforme, va continuer et continuer à se développer, même dans les nouveaux centres de rétention qui sont en construction ?
Celui d'Olivet, par exemple, ne prévoit théoriquement pas l'accueil des enfants. En revanche, c'est le cas de celui de Bordeaux.
D'accord. Autre question, toujours dans cette rétrospective des droits humains. Les centres de rétention sont souvent comparés à des prisons. Hein, on l'a dit, hein, c'est le nom de cette émission, hein, la prison des invisibles. Pourquoi cette comparaison, en fait ? Est-ce qu'on est sur des conditions d'existence dans ces centres de rétention qui sont similaires à celles des prisons ? Enfin, pourquoi qualifier ces centres de rétention de prison ?
C'est parce que on entrave la liberté des individus en question, sachant que à la différence des prisons, il y a une procédure. Enfin, pour les prisons, il y a une procédure, on va dire, pour les détenus, alors que la procédure pour les exilés est assez expéditive. On va dire que c'est une arrestation et puis direction l'ICRA. Et sachant que leur seul tort, c'est de ne pas avoir les papiers, quoi. Donc c'est voilà, quoi.
Quelqu'un veut compléter ?
On peut compléter. Déjà sur le fond, c'est ce qu'a dit Benjamin tout à l'heure. Le premier point, c'est que quand on est condamné à la prison, c'est que il y a eu crime ou délit, il y a eu jugement et la condamnation par un juge. C'est pas du tout le cas quand il s'agit du centre de rétention. Il n'y a ni crime ni délit et une simple décision du préfet. Donc ça fait quand même une différence notable, en tout cas pour le fond. Pour la forme, on a des barbelés pareils. On a la surveillance pareille, on a la vidéosurveillance pareille, on a l'absence d'intimité pareille. Et la seule chose peut-être qui change, c'est qu'il n'y a pas d'encellulement, c'est-à-dire les gens sont renfermés dans leurs cellules. Mais malgré tout, la possibilité d'aller venir est vraiment très extrêmement réduite. Et par exemple, on n'a pas le droit de garder son téléphone si tant est que son téléphone fasse des photos. Donc c'est un univers carcéral, ça ne fait absolument aucun doute.
Une prison cachée en sorte.
Une prison qui ne dit pas son nom.
D'accord, je vous remercie pour ces deux premières parties. On va passer à une troisième partie après une petite vidéo. Une troisième partie qui sera tournée sur le centre de rétention qui est en ouverture à Olivet, proche de l'université.
Lundi 20 mars 2023, nous sommes allés voir l'avancée du chantier du futur centre de rétention administrative d'Olivet. Ces travaux, réalisés à la demande de la préfecture du Loiret, sont situés sur le campus universitaire d'Orléans. Nous sommes surpris par la grande proximité de ce futur établissement où seront bientôt enfermés les sans-papiers du Loiret. En effet, seulement quelques mètres séparent les murs du futur centre de rétention du bâtiment principal de l'UFR de Staps où sont formés les futurs professeurs de sport. Nous avons interrogé trois étudiants pour savoir s'ils étaient au courant de la nature de ces travaux et qui serait leur futur voisin.
Bonjour, vous êtes étudiant en Staps ?
Ouais, on est en L1.
Staps, c'est les études pour faire tout ce qui est prof de sport, préparateur physique. C'est vraiment axé sur les connaissances théoriques et pratiques des différentes activités physiques.
Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe là ? Qu'est-ce qu'il y a en construction juste à côté ?
Bah alors là, on ne sait pas du tout, hein. Même nous, on n'est pas au courant, donc à mon avis, il n'y a pas grand monde qui pourra répondre à votre question.
Si je vous dis centre de rétention administrative, ça vous dit quelque chose ?
Bon, rétention, ça fait peur un peu. Hein. Ah, ça fait peur, ouais, non ? Je sais pas du coup, non.
Et toi, non plus, tu sais pas ce que c'est un centre de rétention ?
Non, même je savais pas ce que c'est, mais c'est intéressant de savoir ça.
Est-ce que tu as quelque chose à dire sur la politique migratoire de ton pays ?
Franchement, je sais pas trop quoi dire. Je connaissais pas vraiment grand-chose sur ça, donc...
Non, je pense qu'il faudrait faire mettre des moyens pour les intégrer plus que les enfermer, je pense. Voilà, juste mon avis comme ça.
Est-ce que tu crois qu'un bâtiment aussi proche de votre université, ça va changer l'ambiance de l'université ?
Honnêtement, je pense pas.
Oh, si, quand même. Je pense que ça peut avoir un impact sur le fait de savoir que collé à notre université, il y a ce bâtiment.
T'as une idée, toi, sur les politiques migratoires qui sont menées dans ton pays ?
Bah, en vrai, c'est déjà un bon premier pas. C'est mieux qu'ils soient dehors ou sous des ponts, etc. Mais on peut quand même faire mieux, mais c'est déjà un premier pas, je pense. En vrai, ça peut être pas mal.
En off, un salarié du bâtiment universitaire nous a confié que les professeurs étaient, eux, tous parfaitement informés de ce à quoi servirait ce bâtiment une fois construit. Certains professeurs sont d'ailleurs inquiets de la grande proximité qu'il y aura entre leurs étudiants et une population en grande précarité. D'autres pensent que la proximité avec l'université permettra d'assurer un traitement plus humain des populations retenues dans ce centre.
Donc voilà, rappelons que ce centre de rétention ouvrira rue de Châteauroux à Olivet, juste à côté de l'université, un centre en chantier que l'on peut voir lorsqu'on passe en tram. Une petite réaction par rapport à ce qu'on vient de voir et ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, bah c'est révélateur de ce qu'on disait, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas les centres de rétention administrative et quand ils apprennent qu'il y en a un, ils comprennent toujours pas ce que c'est vraiment. En fait, là, il y a des personnes qui mélangent un peu tout et qui pensent que c'est un espèce de foyer où les gens seraient à l'abri et pas dans la rue, etc. Alors que nous, ce qu'on dit, c'est que c'est une prison où les gens sont enfermés avec une vraie privation de liberté. Et il y a également des gens qui pensent que c'est des gens qui ont commis des délits, des criminels qui sont enfermés là, alors que pas du tout. On peut être arrêté comme ça par la police, un contrôle d'identité, et hop, on arrive dans le CRA. Et ce qui est très choquant aussi, c'est que l'université d'Orléans accueille beaucoup d'étudiants étrangers. Et en fait, ces étudiants, si jamais ils ne trouvent pas de travail, après, leur titre de séjour peut expirer et hop, ils peuvent aussi, après l'université, se retrouver dans le centre de rétention. Et après, peut-être Oscar pourra plus développer vu qu'il est étudiant sur l'université.
Bah, je pense que c'est révoltant parce que bah, y a, on va dire, y a cette idée qui au sein de la société qui fait que la perception des exilés c'est soit bah, des une menace soit des gens justement auxquels on a un traitement différencié. Et ce qui notamment auprès des étudiants, bah, le CRA, c'était compliqué de faire connaître leur situation, notamment parce qu'il me semble que les travaux ont commencé pendant la période Covid. Et bah, on était en plein confinement, donc c'était assez compliqué de faire connaître. Mais même moi, je ne savais pas qu'il y avait une construction de CRA avant 2021. Quoi. Et donc on va dire que ça, c'est aussi un peu notre mission de faire la prévention de ce que c'est pour éviter notamment... des discours assez confus, notamment en rapport avec les CRA.
Solange, une réaction ?
Oui, qu'il est quand même assez fascinant de voir qu'en fait des CRA, il y en a. La France en est couverte. Je pense que personne ne réalise à quel point c'est un phénomène massif. C'est-à-dire, on avait en 2019, on avait déjà 24 centres de rétention qui existaient. Il y en a une demi-douzaine qui sont en construction ou en projet. Ça représente l'enfermement en moyenne de 50 000 personnes annuellement pour des durées de quelques jours à trois mois. Et le territoire est complètement maillé par ces lieux d'enfermement. Sans compter qu'on ne connaît même pas, nous, le collectif, le nombre exact de locaux de rétention qui peuvent exister sur le territoire. Et on ne connaît pas non plus de la même façon, on n'a pas de chiffres du ministère de l'Intérieur sur le nombre de personnes qui transitent. Donc si on pouvait faire passer au moins une idée, ce serait que les gens comprennent que c'est un phénomène totalement massif. On est dans un pays qui enferme massivement. Ceci pour, dans le but d'expulser, mais surtout qui enferme quasiment, enfin pas loin d'être arbitrairement, même s'il y a des lois qui le justifient, mais des lois qu'à notre avis, qui sont peut-être légales, mais pas du tout légitimes. Et je crois que si nous pouvions faire comprendre que c'est totalement massif, ce serait vraiment déjà quelque chose de bien.
Donc oui, pour rappel aussi, ce centre de rétention va accueillir 90 places, donc à peu près 1500-2000 demandes par année. Personnes qui vont transiter par ces centres de rétention, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc, le collectif a déjà mené des actions contre la construction du centre de rétention, des manifestations à vélo, une chaîne humaine. Aujourd'hui encore, vous êtes sorti dans la rue pour exprimer votre opposition à cette construction. On voit que malgré tout, le projet progresse. Hein. Alors, pour rappel, ce n'est pas le fait de la collectivité, de la mairie, c'est un projet étatique. Hein. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec la préfecture sur cette question ? Est-ce que vous avez pu échanger et connaître un peu leur positionnement sur cette question ?
On a demandé à plusieurs reprises à être reçu par la préfecture qui n'a pas jugé bon de nous recevoir. Ça, c'est une chose. La deuxième question, c'est quoi ?
Quelle est la position de la préfecture sur la...
C'est l'obéissance.
Est-ce que vous avez eu des moyens de vous informer un peu sur la progression, sur comment était mené à bien ce projet ?
Vous avez parlé du calendrier ?
C'est ça ?
Oui. Il est censé ouvrir définitivement et totalement dans le courant du second semestre 2023. Et cette ouverture va se faire progressivement en commençant par l'installation des locaux de la police de l'air et des frontières.
D'accord. Et dans le même ordre d'idée, est-ce que vous avez pu échanger avec le maire sur sa position, sur la collectivité, sur comment eux ils comptent gérer, apprécier la chose?
Le maire d'Olivet, du coup, lui, ce qui le dérangeait, c'est surtout que ça fasse mauvais genre en fait d'avoir une prison pour les voisins à côté. Ça fera baisser le prix de leur maison. En gros, c'est un peu ça son problème en fait avec le CRA.
Pour rappel également, ce centre de rétention, il a coûté 12 millions d'euros à la France, hein, à l'État. À côté, on connaît un peu, on connaît beaucoup la précarité dont souffrent les étudiants, hein, notamment depuis la crise Covid, avant et encore aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que le collectif pense de ce financement qui a été alloué à la création d'un CRA plutôt qu'à l'université?
D'une part, en fait, je pense que c'est indécent au regard de la précarité étudiante qui touche notamment les étudiants étrangers, mais aussi au regard aussi du manque de moyens des universités, ce qui était le cas pour les STAPS. Donc on va dire qu'on peut réaffecter cet argent autre part, mais aussi pour un meilleur accueil pour les réfugiés.
D'accord. Une autre question. Donc là, aujourd'hui, il y avait un rassemblement justement pour protester. Il y a déjà eu des événements qui ont eu lieu. Il y a des suites. Le collectif compte mener d'autres actions dans l'avenir contre ce centre de rétention ou...
Je reviens en arrière une seconde. C'est sur le coup, celui d'Olivier coûte 12 millions. Je crois que le projet de Bordeaux en coûte 23. J'ai regardé dans mes petites notes si j'avais le papier qui dit combien ont coûté la totalité des chantiers envisagés, mais je ne l'ai pas sur moi. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'une expulsion d'une personne coûte entre 10 et 18 000 euros selon les estimations faites. Ça, c'est des choses qui sont publiques. Ça se retrouve dans des rapports de la Cour des comptes et du Sénat. Donc, il faut considérer qu'on dépense à des sommes absolument colossales, et pas seulement pour construire les centres, mais pour la totalité de la chaîne, y compris de la surveillance, des opérations de police, des jugements, de tout ce qu'on veut. C'est incroyablement cher de procéder à des expulsions.
Oui, la chaîne de l'expulsion coûte cher. Et donc, sur ma question des suites du collectif.
Eh ben,
on attend pour s'organiser. Je pense notamment à l'université. Je connais pas la date précise, notamment pour la finalisation du CRA, mais il me semble qu'il y a une possibilité d'organiser beaucoup d'actions sur la fac. C'est sans discussion, on va dire.
D'accord, donc les prochaines actions de colère, ce sera à retrouver sur le site de l'université directement.
Il faut qu'on en discute entre nous, du coup c'est un collectif assez large avec les syndicats, des associations. Et du coup c'est en réunion qu'on décide tout ça, mais en tout cas l'important c'est qu'on continue à faire connaître le projet et à faire comprendre aux gens ce que c'est vraiment un centre de rétention administrative.
Et au-delà de ça, est-ce que le collectif compte mener des actions concernant la future réforme du code des étrangers?
Oui, là, il y avait déjà cette première journée nationale qu'on a déclinée localement. Mais du coup, là, j'ai vu que le ministre Macron, pardon, avait annoncé qu'il allait découper la loi immigration en plusieurs petits projets. Donc On va continuer à suivre ce qui se prépare au niveau national et à essayer de décliner localement, je pense.
Très bien. Je vous remercie pour cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose à ajouter avant la fin ou...
Si vous regardez cette émission, parlez-en autour de vous et parlez des CRA et faites connaître aux gens et essayez de leur faire comprendre un peu ce que c'est pour nous aider. Voilà.
N'hésitez pas aussi à suivre le collectif Colère sur Instagram, il me semble.
Oui, on a une page Instagram et une page Twitter et une page Facebook aussi.
Solange, un dernier mot?
On continue.
Je vous remercie. Je vais vous libérer et je passe le micro à Daniel.
Merci à vous pour cette excellente émission. Plus d'informations, je vous le rappelle, sur le site de la Rédac'Pop, où vous pourrez retrouver l'article très complet, très détaillé, avec notamment des suggestions de bandes dessinées à lire. Il y en a 5, avec des photos et puis avec d'autres éléments de compréhension des chiffres pour mieux comprendre ce problème posé à une partie de l'humanité qui a un problème donc avec l'autre, cet autre, nos frères, nos sœurs, voilà, et qui a un problème d'accueil. Il n'est jamais trop tard pour élever sa conscience. Nous en avons pris conscience au début de cette émission en écoutant justement un artiste de hip-hop. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et toute autre personne. Vous retrouverez évidemment la prochaine émission de Zotélie, ce sera le 29 avril et elle sera consacrée aux fanzines. Merci à tous nos invités, à Solange, Oscar et Benjamin, ainsi qu'à Steven Mirdin, voilà, pour tout le travail qu'il accomplit pour la Rédac Pop de Radio Campus Orléans et pour cette émission de télévision. À très bientôt sur la Rédac Pop et sur Zotélie.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Discovery, welcome back. A great ending to the new beginning.
Affirmative.
That was definitely a chicken.
Roger that, Sally.